prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, étude biblique sur le livre de l'Apocalypse, 23e partie, je viens bientôt.
À nouveau ouvrir notre livre de l'Apocalypse. Vous savez que c'est la dernière, dernière étude. Hein? Alors, c'est le chapitre 22. Chapitre 22 qui se décompose en trois paragraphes. Hein? Alors, on va commencer par le paragraphe du verset 1 à 5. Hein? Voilà. Et puis, on va donner quelques explications sur ce thème. Alors, livre de l'Apocalypse, chapitre 22, c'est le dernier livre de la Bible, et c'est le dernier chapitre de la Bible. Voilà, tout simplement. Le paragraphe en question, de 1 à 5, et c'est intéressant de le prendre en considération, c'est une représentation du ciel. Alors, pour les curieux, et je pense qu'on est tous curieux, de savoir, eh bien, ce qui se passera dans le ciel est présenté sous le symbole d'un fleuve et d'un arbre. Hein, on va le lire d'ici quelques instants. Avec une question qui nous préoccupe et nous aimerions avoir, eh bien, c'est vrai, la réponse, mais ce n'est simplement qu'un petit coin du voile du ciel qui nous est entrouvert. Alors, on ne va pas spéculer, on va simplement, eh bien, se laisser conduire par le texte. En d'autres termes, qu'est-ce que nous ferons dans le ciel? Est-ce que vous vous êtes posé la question? En tous les cas, sur la Terre, il y a beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr. Et puis la deuxième question, mais que serons-nous au ciel? Alors, on l'avait déjà entrevu à travers la Nouvelle Jérusalem. Et puis, quelle sera la source de notre bonheur? Que l'on appelle, quand il est parlé de cette dimension céleste du royaume des cieux, eh bien, en quelque sorte, quel sera finalement, eh bien, là, le but, le sens de ce pourquoi nous serons, nous sommes là-haut, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Mais les choses seront définitives. Alors, quelle en sera la source? Donc, on va relire le verset premier. Il nous est dit, l'ange montra l'apôtre Jean, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alors, ce fleuve est le symbole de la vie éternelle. Il se répand. Voilà. Il fait une œuvre, finalement, eh bien, il avance. La vie éternelle, qui n'est rien d'autre, et la Bible est là pour nous le dire, que la communion, et j'ajoute cet adjectif, la communion parfaite, retrouvée avec Dieu. Vous savez qu'elle a été perdue, cette communion, à travers le premier livre de la Bible. Là, nous sommes dans le dernier, et c'est véritablement quelque chose de très fort qui nous est montré parce que cette communion, j'insiste, elle sera complète, parfaite et totale. Il y a une question qui surgit dans l'évangile de Jean, alors cette fois c'est l'évangile de Jean, où il est question de la vie éternelle et je me permets de citer tout à fait ces paroles de Jésus. Il est dit ceci, « Or la vie éternelle » ça corrobore avec ce que nous venons de lire dans l'Apocalypse. Or, la vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent. Et connaître, dans le sens biblique, c'est une relation d'intimité, de proximité étroite. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, écoutez bien, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus poursuivra et dira, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, la croix, naturellement. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc maintenant, les choses ont atteint leur aboutissement, leur apogée. Et vous avez remarqué, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et la perfection des choses sera dans ce ciel qui nous est ouvert maintenant. Il nous est parlé que ce fleuve se caractérise par une eau limpide. Le sens de ce mot, eh bien, pour nous dire tout simplement que le mal et le péché ne pourra plus jamais troubler cette relation entre la créature et le Créateur. Plus rien ne pourra faire obstacle, tout simplement. Et il sort, ce fleuve, du trône de Dieu, sortant du trône de Dieu. Où là est tout simplement marqué d'une manière tout à fait sensible, eh bien, la source originelle de l'éternité, car la vie est en Dieu seulement. Il n'y a pas autre chose. Ce sont des textes tout simples à interpréter, mais néanmoins, les choses sont présentées ainsi. Je vous ai dit que c'était le symbole d'un fleuve, donc la vie éternelle, mais il nous est parlé également au verset 2 que je lis maintenant, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors, il y a quelque chose de difficile à comprendre, parce que il est parlé d'un arbre. Vous savez que dans le jardin d'Éden, il y en avait un aussi. Dieu a empêché par des chérubins, aux épées flamboyantes, à l'humanité d'atteindre cet arbre. Maintenant, l'arbre est accessible, finalement, eh bien, au racheté, au sauvé. Les arbres, l'arbre de vie. On l'a vu, on l'a remarqué, c'est peut-être la difficulté de compréhension, parce que sur les bords du fleuve apparaît un second symbole dans le paradis céleste et au centre de la cité, c'est-à-dire en son cœur, il y a l'arbre de vie. Il faut comprendre cela si nous voulons lever la difficulté de compréhension, parce qu'il est question d'un arbre, mais il faut le comprendre parce que c'est une expression plurielle au sens collectif, puisqu'il y en a sur les bords. Sur un fleuve, il y a deux bords au moins. Et il nous a dit qu'il y en a sur les bords, qu'il y en a dans le centre de la ville, il y en a dans le cœur de la ville, et voilà, c'est ça. Donc c'est un pluriel au sens collectif. Donc il n'y en a pas qu'un, il y en a... Et pourquoi ce pluriel? Parce qu'il nous est simplement dit que le produit de cet arbre, et vous savez comment on appelle le produit d'un arbre, est si abondant qu'il suggère un besoin si grand qu'il y aura et qu'il produira du fruit pour tout le monde. Et quand il s'agit du ciel, notre faculté d'évaluer quantitativement finalement ceux qui habiteront le ciel se décline en myriades. Et cet arbre, finalement, et c'est ce qui fait sa production, comme nous l'avons vu il y a un instant, renouvelée chaque mois, pour qu'il n'y ait personne, qu'il n'y en ait aucun dans le ciel, qui subisse un manque, ou tout simplement, eh bien, en quelque sorte, un manque de vie, parce que vous allez voir à quoi ça signifie. Donc on parle que ce fruit est tellement abondant qu'il y en aura pour tout le monde. Dans le ciel, on aura d'abord soif de l'eau de la vie, le fleuve, et faim du fruit de l'arbre de la vie. Vous avez remarqué, on l'a lu il y a un instant, 12 fois la production de son fruit, c'est-à-dire tous les mois. C'est-à-dire chaque mois, l'arbre donnera du fruit dont les feuilles, et ça c'est assez énigmatique, je ne vais pas m'aventurer à spéculer sur ce thème, mais il donnera du fruit dont les feuilles de l'arbre divin, parce qu'on peut l'appeler comme ça, sont affectées ou seront données pour guérir les blessures occasionnées par le péché et la misère de la précédente condition. Alors, c'est assez difficile à comprendre, parce que j'ai essayé de me poser la question, il semblerait que dans le ciel, finalement, on n'a plus besoin de grand-chose. Hein, ça serait la félicité. Alors, j'ai pas trouvé, j'ai essayé de chercher un petit peu. La seule chose sur laquelle eh bien nous nous heurtons, c'est que dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors voilà, donc c'est tout ce que je peux dire et je ne peux pas ajouter, je ne peux pas spéculer. Le mot arbre signifie tout simplement bois. Et c'est un mot, naturellement, qui désigne, pour nous dans la Bible, le bois de la croix. Vous savez que Paul s'exprime de cette manière quand il parle de Christ et dans ses épîtres, il parle du bois de la croix. Or, dans la cité céleste, ce bois-là, celui dont il est question de l'arbre de vie, ne sera pas maudit. Et forcément, il ne sera pas maudit parce qu'il n'y aura plus de malédiction, comme à Golgotha. Et vous savez que le bois de Golgotha, le bois de la croix, était maudit pour que nous puissions être bénis. Et ce bois-là, finalement, sera, à l'inverse, une source infinie de bénédictions. Donc, l'interprétation de ce fruit, de ces feuilles, en tous les cas, nous donne une petite idée de ce que a voulu représenter, de ce que Dieu a voulu représenter à travers ces deux symboles, donc la vie éternelle, la vie en plénitude, où il n'y aura absolument pas, eh bien, ce que nous connaissons sur la terre. On va aller un peu plus loin, il nous est parlé que les élus dans la ville sainte font avec joie la volonté de Dieu qui sera leur désir suprême. Vous avez entendu cette parole dans l'évangile de Jean quand il dit, c'est Jean qui rapporte les paroles de Jésus, quand il dit « Mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu ». Vous vous souvenez de ça, hein? C'est avec la Samaritaine. Et nous savons que là-bas, que ferons-nous? C'est déjà une approche à la réponse. Donc, lorsque cette Église glorifiée, parce qu'il faut la considérer comme ça, hein, il ne faut pas dire que c'est l'Église, mais l'Église glorifiée, alors à ce moment-là, nous aurons quelque chose à faire. Et ce que nous le ferons avec joie. C'est-à-dire, la volonté de Dieu sera faite. Finalement, eh bien, ça sera la principale motivation. Sur la terre, c'est différent, hein. Avec les tentations, avec parfois notre mauvaise volonté, avec tout ce qu'il peut y avoir. Mais là-bas, de l'autre côté, la volonté de sera faite complètement. D'ailleurs, dans le Notre Père, vous vous souviendrez que Jésus nous apprend à dire que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre, pardon, comme elle est faite au ciel. Là-bas, elle sera faite, finalement, eh bien, et c'est nous qui la ferons. Entre autres, dans le concert de ce monde, eh bien, céleste. Trois caractéristiques du bonheur éternel. On va le lire. À travers la suite, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Ce qui est intéressant, trois caractéristiques de ce bonheur dans le ciel. Voir Dieu, le servir ou servir Dieu et porter son nom. C'est ce que nous venons de lire. Ce qui identifiera les élus comme des vainqueurs, et quand je parle des élus, ce sera les saints d'Israël, oui, Israël, les pieux d'Israël, ceux qui attendent la consolation et l'espérance d'Israël, l'Israël converti et les élus de toutes les nations, convertis naturellement. Voilà notre identité, voilà leur identité, leur patrie et leur roi. Leur roi. Notre patrie, nous la chantons souvent. Hein? La patrie céleste. Notre identité, ça sera Christ. Et puis notre roi, naturellement, dans son royaume, eh bien, ce sera celui qui, finalement, nous aura sauvés. Et nous le servirons. Je voudrais lever peut-être une ambiguïté, c'est que dans le ciel, nous aurons une activité. Une activité selon l'aptitude de chacun. On ne passera pas l'éternité dans une contemplation béatifique, comme quelquefois eh bien, la religion nous l'a si souvent présenté. Non, ça ne sera pas ça. Ce ne sera pas la contemplation en permanence. Il y aura quelque chose de tout à fait particulier. C'est vrai que les textes ne sont pas trop, ils ne sont pas prolixes pour nous montrer, mais néanmoins, eh bien, on peut deviner par recoupement, finalement, eh bien, qu'il y aura quelque chose de tout à fait particulier. Et puis, dans une liberté, dans une aisance, dans une facilité que nous ne pouvons pas nous imaginer maintenant naturellement. Ne nous a-t-il pas été promis des récompenses? Vous connaissez? On en parle. Jésus en parle dans les évangiles, dans ses enseignements, dans ses paraboles. Des récompenses qui auront leur équivalence, écoutez bien, selon l'intelligence et la consécration de ce que nous aurons été sur la terre. Et ça, c'est encourageant pour chacun d'entre nous. Attendre, à aspirer, à désirer ardemment, eh bien, servir le Seigneur sur la terre. On pourrait dire que nous sommes à l'école. Nous sommes là en apprentissage. Nous sommes là, finalement, eh bien, à découvrir, mais tellement partiellement et petitement, ce que sera notre dimension de l'autre côté, parce que il n'y aura plus de limitation, hein. Ça ne sera pas territorial, hein. Ça ne sera pas finalement, eh bien là, cloisonné avec, des frontières. De l'autre côté, ça sera, comment dire? Il n'y a pas de mots pour le dire. Mais toujours est-il que ce sera exactement le contraire de tout ce que. Et là, même notre chair, hein, Ben oui, puisque nous serons dans un corps glorifié, ce ne sera plus notre handicap. Quelquefois, nous voudrions bien servir le Seigneur, mais bon, nous sommes parfois soumis à nos faiblesses, à toutes sortes de choses, et nous sommes limités. Mais de l'autre côté, mais ça sera en fonction de l'équivalence, je l'ai dit, de l'intelligence que nous aurons des choses, et de ce que nous aurons fait sur la terre. D'ailleurs, vous le savez, Jésus nous en parle, c'est la parabole des talents, selon tout simplement Matthieu 25. À l'un est donné ainsi. Et puis après, il y a le retour du maître en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait des 10 talents ?» Et l'autre, il en reçoit 5. « Qu'est-ce que tu as fait des 5 talents ?» Je ne parlerai pas du dernier, parce que lui, il est hors course. Mais toujours est-il que Dieu lui dit « Bien, toi qui as été le gérant de 10 talents, eh bien, je te donnerai 10 villes. » Ça correspond à quelque chose dans les lieux célestes. Alors, on ne va pas épiloguer sur le mot « ville », naturellement, mais il y aura certainement une dimension pour chacun d'entre nous, parce que nous aurons été fidèles. C'est pas la quantité que Dieu demande, c'est la qualité. Parce que nous aurons été fidèles, nous trouverons une équivalence de l'autre côté dans une responsabilité, une élévation, une autorité. Parce que vous savez qu'on règnera avec le Seigneur. Ça sera quelque chose dont nous avons du mal. Alors, je dis, pourquoi être orgueilleux ici-bas, sur la terre, dans notre corps? Parce que là, c'est le meilleur moyen pour tout perdre. Hein. Servons humblement, servons avec amour, et de l'autre côté, on verra toute la grandeur de la grâce et de la gloire que Dieu nous réserve. Les petits sur la terre seront des grands de l'autre côté. Et quand on veut être grand sur la terre, c'est le meilleur moyen pour être petit, hein, dans l'autre sens. Vous comprenez? Ça, c'est les principes de l'évangile. Activité et responsabilité céleste. Qui sera une source de joie pour les chrétiens glorifiés, enfin l'Église glorifiée, une source de joie éternelle? Ça ne sera pas quelque chose de fugace, mais quelque chose qui sera et qui demeurera à jamais, parce que servir, comme Jésus nous laisse entendre, c'est régner. Notre position, ça sera de régner. Vous vous rendez compte ce que c'est de régner? Là, en ce moment, on est en train de jouer des coudes pour les élections présidentielles, hein, parce que le président, c'est quand même un roi. Hein, ils veulent tous y être à la place. Mais de l'autre côté, on régnera. Et ça ne sera pas pour un temps, hein. Ça ne sera pas pour une couronne de vanité, une couronne de laurier, mais ça sera pour une couronne d'or, une couronne immortelle. Et nous porterons son nom, dit le texte. Tel sera le bonheur des élus dans la nouvelle Jérusalem. On l'a déjà anticipé, puisqu'on l'a déjà vu la première fois. Porter son nom et voir sa face. Pour nous dire tout simplement que quand le voile sera ôté, ça sera la contemplation active. Et ainsi sera réalisée cette parole qu'un jour Philippe est venu demander à Jésus, parce qu'il était intrigué, et il lui a posé cette question dans l'évangile de Jean. Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père. Eh bien là, on n'aura pas besoin de poser la question, le Père, on le verra. On le verra face à face, parce que nous aurons à ce moment-là, l'Église aura les capacités, les propriétés, la faculté de voir Dieu face à face. Vous vous rendez compte? Puisque quand Moïse a dit à Dieu, je voudrais te voir, Dieu lui a dit, mais un homme ne peut vivre et voir ma face, parce qu'il va mourir. C'est pas possible. Mais de l'autre côté, nous serons revêtus, finalement, eh bien, de cette dimension de vie réelle, pas celle que nous avons. Alors montre-nous le Père, on le verra de l'autre côté. Alors, imaginez-vous, déjà, nous nous extasions devant l'infini, parce que nous ne sommes que des petites créatures. Mais vous rendez compte, ce sera la dimension de l'univers. J'ai dit bien l'univers. Déjà, nous sommes renfermés sur notre planète. Et nous avons quelquefois le vertige devant l'horizon, et nous voudrions bien voir ce qu'il y a derrière. Mais quand on regarde vers le ciel, on se dit déjà, quand on arrive à entrevoir déjà l'immensité de notre propre galaxie. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y en a des millions et des milliards. Imaginez-vous ce que ça peut être. Seigneur, on n'a pas la propriété aujourd'hui pour supporter ça. Dans notre capacité intelligente et puis dans toute... Non, on exploserait. Mais imaginez-vous, hein. Et c'est ce Dieu-là qui nous a aimés, vous vous rendez compte? Pour nous sauver et nous faire part finalement, eh bien, de ce royaume qui n'a plus de limites, qui n'a plus de dimensions. C'est l'infini. On ne peut pas dire autre chose. Alors, le montre-nous le Père, eh bien, à ce moment-là, ça sera fait à ce moment-là. Puis sur notre front, vous savez, on a souvent parlé du front et de la main, hein, dans les chapitres précédents, mais son nom sera inscrit. Son nom inscrit, Dieu nous reconnaîtra comme les siens à la face de l'univers entier. Mon fils, ma fille, parce que tu as cru en Christ, tu as cru dans celui que j'ai donné pour le salut de l'humanité. » Eh bien voilà comment nous serons reconnus. Et il y aura le nom sur notre front. Vous savez que tout artiste, et je pense à la peinture en particulier, appose sa signature sur une œuvre quand elle est achevée. Rembrandt, Le Titien, puis il y en a bien d'autres, hein. Il y en a des centaines et des centaines, ils ont des capacités extraordinaires, ces gens. Je me suis toujours extasié de voir comment on peut faire des choses comme ça, c'est beau, hein, la peinture. Et nous apercevons que l'artiste, eh bien, il pose sa main quand l'œuvre est achevée. Et Dieu se gardera bien de signer son œuvre, ou une œuvre incomplète et manquée. Et c'est pour ça, justement, que les choses nous sont présentées, pour que nous puissions hâter cette œuvre. Et ça, c'est une œuvre de l'Esprit. Ça sera la preuve qu'il sera parvenu à faire en nous, en chacun d'entre nous, et dans la globalité de l'Église, son travail de régénération, de sanctification, de transformation à l'image de son Fils, à l'image de Jésus. Parce que c'est ce nom que nous porterons. Et finalement, notre identification sera l'identification à Christ dans sa perfection. Dans, comme il nous est dit, ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ, dans son caractère, dans ce qu'il peut être, parce que Christ est Dieu et il est parfait. Et là, à ce moment-là, eh bien, ce nom, ça sera une signature. Dieu pourra dire, eh bien, voilà, mon œuvre est parfaite. Oui. Mon œuvre est parfaite. C'est ce que Jésus dit d'ailleurs. Nous l'avons lu tout à l'heure. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. J'ai accompli ton œuvre. Glorifie-toi, Seigneur. Eh bien, ce sera ça, justement. Afin que nous soyons totalement empreints et rayonnants de la gloire divine. Et vous savez, il y a un beau texte. C'est Paul qui l'avait déjà entrevu. Quand il dit ceci dans 2 Corinthiens, nous le chantons très souvent. Dans un cantique. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Et verset 17, écoutez, ça va vous rappeler quelque chose. Mais quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de tout à fait particulier. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça sera véritablement, eh bien, notre part. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. De gloire en gloire, transformés, et nous porterons, eh bien, l'empreinte et le rayonnement de Christ. Aujourd'hui, nous ne sommes que des petites lumières, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes que un sel qui a du mal à, finalement, eh bien, apporter de la saveur à ce monde. L'Église souffrante et l'Église militante. Mais de l'autre côté, ça sera quelque chose dont nous ne pouvons pas nous imaginer. Et puis au verset 5, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. C'est ce que je vous ai dit. Travailler, c'est régner. Travailler pour le Seigneur, servir le Seigneur, c'est régner. Au siècle des siècles. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce paragraphe, dans ce chapitre plutôt, ça, par deux fois, on le retrouvera tout à l'heure, il nous est dit qu'il n'y aura plus de nuit. Alors, en plein jour, nous serons éclairés par la magnificence du Seigneur et l'Église glorifiée, loin d'être figée, pétrifiée et immobile, et ça c'est intéressant à prendre en considération, va évoluer dans un prodigieux jaillissement de vie qui ne tarira jamais. C'est pour vous dire que on n'est pas là-bas comme des statues, on ne sera pas là-bas comme des statues, comme là, eh bien, finalement, des figurines. Mais écoutez bien, ça sera un jaillissement de vie. Nous serons porteurs de la vie, et la vie va se répandre à la dimension que Dieu, eh bien, nous destine naturellement. On pourrait peut-être même aller plus loin, puisque ça ne s'arrêtera pas, on pourrait parler que l'éternité sera, si nous voulons le comprendre, autant qu'on puisse le comprendre, la succession d'actes créateurs de Dieu dans un inépuisable renouvellement fait de nouveautés, et de découverte à l'infini, et en même temps à l'infini, de découverte de l'infini. Alors, j'ai les mots qui me manquent. Je suis à court, et vous comprenez pourquoi? Parce que je ne suis jamais allé. On va y aller. Pour l'instant, j'en parle avec un langage tellement faible, tellement partiel. Mais toujours est-il que C'est comme cela que nous pouvons nous imaginer. Il y aura, c'est pas de l'imagination, je pense que nous le ressentons dans ces textes déjà. À travers les mots, il y a peu de choses qui nous sont dites, mais néanmoins, ça nous suffit. Parce que il va y avoir une succession, il va y avoir quelque chose, ça sera vivant, c'est ça ce que je veux dire. Ça sera la lumière, ça sera une découverte perpétuelle. Alors si vous êtes curieux de tout, alors là, vous n'avez pas fini. Hein. Ça commence, mais ça ne finira jamais. Ouais, c'est... Et je crois que Dieu a donné déjà l'intelligence à ses créatures pour avoir cette perception et cette volonté de découvrir. Mais de l'autre côté, ça sera, comment dire, phénoménal. Je ne sais pas comment dire. Ouais. À l'infini, dans l'infini de Dieu. Pour régner au siècle des siècles. Alors on passe maintenant à la seconde partie. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alors c'est intéressant ça aussi. Parce que nous sommes confrontés à quelque chose que voici que cette glorieuse révélation concernant la destinée des élus vaut pour toutes les professions, les prophéties bibliques annoncées à travers le cours des siècles écoulés. C'est pas seulement l'Apocalypse qui nous le dit, mais à partir du premier mot de la Bible jusqu'à la fin, là où nous en sommes rendus, eh bien, on s'aperçoit que c'est une révélation. Et cette révélation, elle nous concerne. Tout a été mis en œuvre pour nous, pour l'Église, pour les sauver, pour les racheter, pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Tout converge pour cela. Vous vous rendez compte, la grâce? Dieu a déployé les cieux, les étoiles, le firmament, hein, les astres, etc., etc. Mais c'est pour nous qu'il l'a fait. Relisez Éphésiens. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout réuni en lui pour l'Église, l'épouse, la fiancée. Depuis les noces de l'agneau, la fête a commencé. Alors, comment contenir toutes ces choses? Parce que vous avez remarqué, il nous est dit, ces paroles sont certaines et véritables. Ça, ces mots ont de quoi véritablement encourager le cœur des croyants aujourd'hui. Paroles certaines et véritables. Et je crois que chacun d'entre nous ce soir, eh bien, nous pouvons dire que nous croyons affirmativement à la parole de Dieu et nous n'allons pas mettre en doute ce qui nous est dit, même si c'est difficile à comprendre. Certaines et véritables, et rien n'a aucun doute, c'est bien la vérité qui ne manquera pas de se réaliser jusqu'alors dans ces temps de la dispensation de cette humanité sur la terre, une terre souffrante et mortelle, c'était le mensonge qui avait prédominé. On le voit d'ailleurs, quelle lutte cosmique entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et le diable, et les hommes qui sont au milieu. On pourrait toujours penser que c'est toujours la vérité qui est en faiblesse. Mais elle triomphe toujours. Mais là, elle sera arrivée à son paroxysme de triomphe, de l'autre côté. Parce que Dieu triomphe, et Dieu triomphe parce qu'il est l'auteur, finalement, lui-même, de tout cela. Et nous voyons que c'est lui, comme le texte nous le dit, qui a toujours inspiré prophétiquement, pour encourager les croyants, qui a inspiré de son esprit les prophètes concernant les choses qui doivent arriver bientôt, c'est ce que nous venons de dire. Les choses qui doivent arriver vite. Les choses qui vont arriver prochainement, nous pourrions dire. Et à travers tous les siècles, depuis les premiers prophètes, les plus anciens de la Bible, jusqu'à maintenant, eh bien c'est Dieu qui les inspirait. Et comme dit Jésus, plus qu'un prophète Jésus, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Ces paroles sont certaines et véritables, parce que ces choses arrivent bientôt. Alors relevons nos têtes. Que l'Église ne se décourage pas. Et ce qui peut être une source de souffrance, c'est qu'on s'aperçoit que plus le retour de Jésus approche, moins les enfants de Dieu et les croyants sont prêts à l'attendre. C'est terrible, hein? On a besoin de revenir à l'Apocalypse, naturellement. Ainsi donc, le bonheur promis sera à la mesure pour tous ceux qui auront su garder, parce que ça c'est important, comme authentiques, les déclarations du message de l'Apocalypse. On le reverra tout à l'heure. Nous le verrons dans quelques instants. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, et particulièrement l'Apocalypse. Que nous gardions la totalité des paroles de la Bible, particulièrement du Nouveau Testament, parce que ça nous concerne. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. La dispensation d'un Christ sauveur, qui nous a sauvés, mais particulièrement l'Apocalypse, parce que c'est le dernier des livres. On verra d'ici quelques instants, il n'y a plus rien après. Enfin, il n'y a plus rien, sinon l'attente du Seigneur. Et nous le gardons dans notre cœur par la foi. Garder, ça veut dire quoi? Des choses simples. Garder, ce n'est pas oublier. Garder, c'est tout simplement repasser dans son cœur. Ça veut dire méditer. Médite la parole dans ton cœur. Garde-la. Et le Saint-Esprit est là pour la reprendre en sous-main, pour nous la rappeler en permanence. Donc, c'est bien sûr la parole de Dieu qui est certaine et véritable, qu'il faut garder. Et puis, c'est aussi mettre en pratique, hein, parce que bon, il y a quand même une cause à tout cela, et puis il y a naturellement un effet, la mise en pratique. Et puis le verset 7 nous dit ceci, « Et voici, je viens bientôt, heureux ceux qui gardent ces paroles de la prophétie de ce livre. » Le verset 8, pour poursuivre, nous dit, « C'est moi, Jean, qui ai entendu et qui ai vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Alors ça fait deux fois que l'on voit Jean, finalement devant cette révélation inouïe qui lui est présentée, confondre et se mettre à adorer l'ange. Alors, Jean reçoit, dans un premier temps, l'ordre de ne pas sceller cette déclaration, car elle est sur le point de s'accomplir. Gardons les choses précieusement aujourd'hui. Jésus est proche, il n'est pas loin. Et nous le voyons dans la suite. Mais l'ange me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Je crois qu'il faut faire attention plus que jamais, et Jésus nous prévient dans ses messages prophétiques concernant ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire son retour. La première chose qu'il faut veiller, c'est de ne pas nous laisser séduire. Paul le redira, quand bien même un ange viendrait vous annoncer un autre évangile, ne le croyez pas. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a une confusion. Et vous savez, cette confusion, elle vient de quoi? Parce qu'on n'est pas resté sur la parole. Et on appelle spirituel ce qui n'est que psychique. Et le psychisme, c'est le monde religieux. Tout simplement. Et les gens disent, ben, je suis spirituel, alors qu'ils sont psychiques. Et le psychisme, c'est l'âme. C'est le sentiment, c'est l'émotionnel. Et aujourd'hui, il y a une lutte terrible dans notre monde, et particulièrement dans notre monde chrétien et dans nos églises, cette confusion pour adorer ce qui n'est pas adorable. Et on voit que l'ange va secouer Jean, il va lui dire « Mais non, certainement pas !» Alors il faut se garder de cette séduction, de cette fausse adoration, car ce n'est qu'en Dieu seul qu'est la vraie vie et qu'est la vraie place, notre vraie place. Et c'est pourquoi l'ange lui dira « Mais tu adores Dieu !» Adore Dieu, c'est tout. On continue. Ne scelle point les paroles de la prophétie, nous l'avons lu de ce livre, car le temps est proche. Alors écoutez bien la suite, parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle nous situe, finalement, dans la proximité du retour de Jésus, peut-être dans nos derniers temps, dans les temps qui sont les nôtres. Il est dit ceci au verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Parce que le temps est proche. Plus nous nous rapprochons de ce retour, plus il y a une pression. Et cette pression, elle s'exerce sur deux pôles, le bien et le mal. Alors chacun, écoutez bien, c'est l'explication, alors chacun doit poursuivre sa course, écoutez bien la manière dont les choses sont dites, en sachant qu'il reste peu de temps pour déployer, pour nous mettre en action, mettre en activité, donc déployer, soit toute la perversité ou soit toute la sainteté. Bon, nous sommes du bon côté, la sainteté. Mais le monde, qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui? C'est assez époustouflant, c'est assez, comment dire, inouï de voir le monde se dégrader et s'enfoncer s'enténébrer dans la perversité. On le voit. Parce que ça, cette parole, elle n'est pas pour l'Église, mais elle est pour la constatation, le constat que nous faisons du monde d'aujourd'hui. Et vous avez bien remarqué, c'est pour ça qu'il est dit que celui qui se souille, celui qui est injuste, c'est bien qu'il continue. Et on va voir pourquoi. Soit, donc, finalement, aller dans le sens de la perversité, ou alors dans la sainteté, pour une raison bien particulière, car il faut que tout arrive à maturité. il y a un fruit, un bon fruit en ce qui concerne ceux qui ont mis leur espérance en Dieu, et un mauvais fruit pour ceux qui ont rejeté tout simplement, eh bien, le salut de Dieu. Parce qu'il faut que tout arrive à maturité. Et Dieu fait les choses, justement, dans cette notion de mûrissement et de maturité, autant dans le bien que dans le mal. C'est comme ça que le Seigneur va revenir. Il viendra enlever son Église à maturité. Et il viendra juger les nations au moment, tout simplement, d'Armageddon, qui ouvrira sur une nouvelle dimension temporaire qu'on appelle le millénium. Ainsi, si quelqu'un persiste dans l'injustice ou la souillure, il sera abandonné à son injustice et à sa souillure. C'est la logique, puisqu'il a fait pousser finalement eh bien, une graine, une semence, qui est une semence mauvaise. Il va en récolter des fruits. Donc il sera lui-même abandonné, il s'abandonnera, il sera tout simplement livré à sa nature. Et au contraire, celui qui persévérera dans le bien et le droit en récoltera un fruit qui sera un fruit béni et éternel. Chaque action, selon sa nature, bonne ou mauvaise, produira en conséquence. C'est ce que Jésus a dit, hein. Celui qui sème finalement, eh bien, le vent, récoltera la tempête. Celui qui sème le mal récoltera du mal. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et celui qui aura persévéré dans le bien, eh bien, en récoltera finalement le fruit. Mais ça sera béni. Et ça, c'est une belle exhortation qui nous est laissée de ce verset 11. C'est une exhortation à rechercher la sainteté parce que le mal ira en s'exaspérant de plus en plus. Hey, il n'a plus de frein. Il n'y a plus rien du tout. On pourrait l'arrêter, mais on ne peut plus maintenant. Et on le voit bien autour de nous, c'est quelque chose. Et il n'y a pas que notre temps, les temps d'avant aussi, hein, qui ont poussé l'horreur, qui ont amené l'enfer sur la terre. Mais alors qu'est-ce que sera, finalement? Qu'est-ce que ça va être dans les temps qui sont devant nous, hein? Et ce déferlement d'iniquité demandera aux croyants que nous sommes, à l'Église, nous qui sommes encore ici, s'ils ne veulent pas être entraînés malgré eux, un redoublement d'intensité à s'attacher à Dieu et à s'attacher au bien. Et là, nous avons vraiment pas seulement besoin de nos forces, mais nous avons vraiment besoin de la force du Seigneur parce que nous ne pourrions pas y arriver. C'est pour ça qu'il est dit que celui qui se sanctifie encore. On a besoin de la grâce de Dieu parce que dans notre nature, hein, on est encore attaché à la terre et puis il y a des choses qui nous échappent. Hein. Ça, c'est clair. À la fin, le mal et son influence va atteindre son paroxysme. C'est ce que nous avons vu dans les chapitres précédents de l'Apocalypse. Hein, l'histoire des sceaux, l'histoire des trompettes, l'histoire des coupes, ça déborde à un moment donné, ça explose, nous pourrions dire. Parce que tout ce mal qui arrivera finalement à son summum portera à faire abandonner la moralité et à éteindre toute spiritualité, c'est le but. Et on le voit déjà, il y a déjà les prémices, et bien engagé déjà dans le domaine de la vie morale de l'humanité. Et on le voit dans la confusion qu'il peut y avoir dans la spiritualité, où les gens ne font plus la différence entre la spiritualité divine et puis la spiritualité ténébreuse, ou magique, ou spirit, tout ce que vous voulez. La motivation de ce redoublement d'énergie en est le verset 12, que je lis. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Ça, c'est la motivation, finalement, de ce redoublement en disant « Mais Seigneur, il revient bientôt, donc nous ne pouvons plus nous permettre maintenant, eh bien, de finalement d'attendre comme les vierges folles. On a nos lampes, mais on prend pas d'huile. Résultat, on est dans la nuit. Et on dort, tout simplement. « Je viens bientôt, nous dit Jésus. » Traduction, peut-être plus ciblée, « Je viens vite. » Ce qui laisse finalement, oui, je viens, et ça fait 20 siècles que les choses, mais je viens vite, alors attendez-moi. Comme chacun est un semeur, et le résultat de ce qu'il aura semé durant toute façon sa vie, eh bien on l'a dit et je le répète, on le récoltera, le danger étant de s'endurcir dans l'incrédulité. Et c'est ça le grand drame et le grand problème, même voire même de l'Église. Où, à la fin, tout en étant chrétienne, l'Église, dans certains aspects, va tellement relativiser, va tellement emprunter un petit peu la mentalité du monde en disant, comme cela nous est dit dans le livre des Hébreux, depuis que nos pères sont parus sur la terre, finalement, les parvenus, rien n'a changé. Là, c'est grave. Et c'est tombé à ce moment-là, finalement, dans une forme d'endurcissement. Parce que sera rendu à chacun selon ses œuvres. Je visite maintenant le verset 13 et 14, il nous est dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Voici la dernière et ultime béatitude. Je vous ai dit la fois dernière qu'il y en avait 7 béatitudes dans l'Apocalypse. Il y en a aussi dans le Nouveau Testament. Il y en a également à travers les évangiles. Heureux. L'image est la suivante, retenez-la bien. En d'autres termes, tout homme porte un vêtement. C'est ça, quand il est parlé de robe, on a bien compris. Tout homme porte un vêtement qu'il ne cesse de tisser au cours de sa vie. Les fils en sont les pensées, les paroles et les actes. Quel vêtement allons-nous porter? C'est de la qualité, finalement, de nos paroles, de nos actes et de nos pensées. Et le vêtement représente notre caractère chrétien. Nous sommes revêtus de Christ. Nous avons été dépouillés de notre vieille nature, du vieil homme. Maintenant, nous sommes revêtus de l'homme nouveau. Un vêtement, vous comprenez? C'est le caractère chrétien. C'est pour ça que il est bien de prêcher les dons spirituels. Et nous le devons, parce que nous sommes une église charismatique. Mais n'oublions jamais qu'en prêchant les dons spirituels, il faut prêcher également le fruit de l'esprit. Le caractère, le vêtement. Et rien ici-bas ne peut le rendre propre. C'est comme le prophète qui disait dans l'Ancien Testament, toute leur justice est comme un vêtement souillé. Et si c'est par les œuvres, si c'est par le légalisme, si c'est par nos abstinences ou ceci et cela, ça ne rendra jamais propre notre robe, notre vêtement, notre caractère divin. C'est pas ça? Ça va favoriser peut-être notre orgueil. Si nous avons quelques réussites en la matière. Mais c'est tout. Mais pour être saint, pour que notre robe soit propre, il n'y a qu'une chose. C'est tout simplement la foi dans l'œuvre rédemptrice de Christ. Et c'est ce que nous dit Paul. Écoutez, il le dit dans Corinthiens, et le texte est tout à fait approprié, parce que c'est un beau texte que nous chantons de temps en temps également. Il est dit ceci. Dans ce chapitre que je retrouve, chapitre 1er, et au verset 30, écoutez, c'est par lui, c'est par Christ que vous êtes en Jésus-Christ, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, a été fait pour nous justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc il n'y a aucune glorification à avoir, parce que nous aurons fait des efforts, parce que nous aurons fait ceci. Tout nous vient de Jésus, tout simplement. Cette robe, c'est Christ qui nous l'a donnée, un vêtement blanc. Une harpe d'or? Bon, on va pas chanter, mais vous savez ce que ça veut dire. Et qui nous donne accès, nous l'avons vu, nous l'avons sous les yeux, à avoir droit à l'arbre de vie et à entrer par les portes de la ville. Verset 15, et nous arrivons presque à la fin. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors resteront ceux et celles qui ressemblent et qui portent en eux non l'image de Christ que nous venons de parler, à travers la robe, le caractère, mais l'image de la dépravation du mal, et notamment le mensonge. Ouais. Que beaucoup de gens, voire même de chrétiens, disent « Oh, le mensonge, c'est pas grand-chose à côté d'un meurtre. C'est pas grand-chose à côté de ceci et cela, mais il n'y a pas de comparaison à faire. Le péché reste le péché. Dans sa totalité, pas de petit, pas de grand. » Mais entre autres, celui dans lequel les hommes minimisent souvent, c'est le mensonge. Jusqu'à inventer qu'il pouvait y avoir de pieux mensonges. Le mensonge, c'est le mensonge. La vérité, c'est la vérité, c'est tout. Faut être courageux, pour être vrai. Et le mensonge seront condamnés dehors. Dans le ciel, il n'y aura pas de menteurs. Ceux qui auront aimé le mensonge, ceux qui auront pratiquer et voire même jouer avec le mensonge et qui auront vécu leur existence dans la fausseté. Il y a des gens qui sont des experts. Hein. On nous en parle tous les jours. Hein. C'est vrai ? Voilà, dehors, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Arrêtons-nous quelques instants brièvement. « Moi, Jésus. » C'est la première fois qu'on le trouve. « Moi, Jésus. » Première fois si clairement déclaré, c'est sa signature. Je vous ai parlé d'une signature d'un artiste. Hein. « Moi, Jésus. » Signature formelle. Et à cette divine signature, le Seigneur n'a pas honte d'ajouter, remarquez bien, son titre humain de fils de David. Fils de l'homme, fils de Dieu. Fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David. Et de l'élever du nom symbolique de d'étoile brillante du matin. Parce que cette étoile brillante du matin, c'est l'espérance certaine qu'après les ténèbres, le grand jour éternel et lumineux se lève. Et vous savez notre place? Et vous savez ce qu'il nous est dit dans ce grand jour lumineux? Une belle parole de Daniel, le prophète Daniel. Écoutez, pour ceux qui auront cru, ceux qui auront persévéré, ceux qui auront espéré à ce jour glorieux qui vient, dans Daniel chapitre 12 verset 3, il nous est dit tout simplement, ces mots, ils sont très beaux, hein. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se lèveront les uns pour la vie éternelle, pour les autres les propres. C'est ce que nous avons dit il y a un instant. Ceux qui auront été intelligents, c'est la foi, hein. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous vous rendez compte? L'intelligence, c'est d'avoir cru que Jésus est sauveur et seigneur. C'est ça l'intelligence, c'est pas autre chose. C'est une intelligence de l'esprit, tout simplement. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'esprit de Dieu, l'épouse. Tous les deux avec un grand E. Ouais. L'esprit et l'épouse. L'épouse a été éclairée par l'esprit. Elle est sauvée par l'esprit. L'église. Tous les deux, l'esprit et l'épouse s'unissent pour adresser à toute créature humaine. C'est le dernier message évangélique. Hein. Dernière phrase de l'évangile, en quelque sorte. C'est l'ultime barrière. Toute créature humaine, une dernière fois, cette invitation qui fait écho à Jean chapitre 16, où Jésus, à la grande fête de Jérusalem, disait « Mais celui qui a faim, celui qui a soif, vienne et qu'il prenne de l'eau. » Et cela, avec un mot, le mot-clé de ce texte, c'est gratuitement. Dieu ne fait jamais rien payer. Tout est gratuit. Qui illustre la merveilleuse et souveraine grâce de Dieu. Et c'est le témoignage à en juger de l'amour divin offert à ceux qui, par l'évangile, ont été rendus, excusez-moi l'expression, assoiffés de l'eau de la vie. Venez, prenez, buvez, car quelqu'un a payé à votre place. Quelqu'un a donné, s'est donné en rançon, et votre substitut, alors vous pouvez boire, vous pouvez maintenant vous désaltérer, parce que tout cela, c'est pour vous, et c'est un cadeau pour quiconque, tout simplement, croit. C'est pas un gros effort de croire. On n'a pas besoin de monter au ciel ou de déplacer des montagnes. Croire, c'est notre cœur, c'est une disposition morale. Et je finis. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Alors n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Solennel avertissement qui nous dit que dans la parole de Dieu, tout est vérité. Tout est vérité. Il n'y a rien à reprendre, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à modifier, plus encore dans le livre de l'Apocalypse, dans toute la Bible, mais particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, parce qu'il représente la frontière, l'ultime frontière, la dernière frontière avec l'éternité dans la vie et l'éternité dans la mort. Pour ça qu'il ne faut pas toucher. Il n'y a pas à contester. Dieu ne nous a pas demandé de croire, de chercher à comprendre tout pour croire, mais il nous a demandé tout simplement de croire sans rien toucher. Voilà. Et Dieu nous éclaire. et Dieu nous éclairera si nous sommes peut-être pas au fait de la situation. Et il y a bien des choses que nous ne comprendrons pas dans ce corps d'humiliation, mais que nous allons comprendre bientôt. Tout s'éclairera, il n'y aura même pas de questions à poser. Parce que c'est ainsi. Attention, c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé, et que personne ne ferme ses oreilles, ni s'endurcisse ou ni endurcisse son cœur à ses appels et à ses avertissements. C'est pourquoi c'est le dernier avertissement. Ces paroles divines sont inspirées. Rien à ajouter, rien à retrancher, et on finit. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Oui, je viens bientôt. Oui, je viens vite. Oui, je viens promptement. Quelle impatience! Parce que ce sont des mots qui expriment l'impatience. D'abord, l'impatience avec laquelle le Sauveur et Seigneur attend le moment pour venir chercher ses rachetés. Vous savez que le Seigneur est pressé? Oui. Oui, je viens bientôt. Il est pressé d'amour. Comme quand on va à la rencontre de quelqu'un que l'on aime. On est pressé de le revoir. Eh bien, c'est ça. Oui, je viens bientôt. C'est une impatience. Mais une sainte impatience. Et quelle joie pour nous d'entendre ces paroles pleines de charme, autant pour celui qui va revenir que pour ceux qui guettent finalement son retour, sans faillir, et avec véritablement eh bien, le cœur rempli de joie et rempli de ce feu de l'amour de Dieu. C'est autant pour Jésus qui vient et autant pour nous qui l'attendons. Alors l'Église, à ce moment-là, va répondre. Aussitôt l'Église de répondre par ce cri qui est un tressaillement et une ivresse céleste. Je ne sais pas ce que c'est, l'ivresse céleste. Et elle répond « Amen, viens Seigneur Jésus ». Je terminerai par une dernière parole que j'ai trouvée très belle. Je vous ai déjà citée, c'est dans Ésaïe chapitre 21 verset 11, où il y a une voix qui parle. Une voix qui traverse le temps, qui traverse les siècles et qui est venue jusqu'à nous, où il est dit ceci, on crie de Séhir, la montagne de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Nous sommes dans la nuit. Sentinelle, deux fois, que dis-tu de la nuit ? Et la sentinelle répond, le matin vient. Ouais, le matin vient. Vous savez que le grand matin est proche. Nous sommes dans la nuit de ce monde. Nous sommes dans la nuit de cette humanité, cette nuit qui dure depuis le jardin d'Éden. À travers toutes les différentes étapes, à travers les différentes péripéties, à la fois du peuple d'Israël, à la fois du peuple de Dieu, des croyants d'une manière ou d'une autre, de l'Église. Oui, le matin vient, c'est notre espérance, et nous regardons la brillante étoile qui brille et qui nous dit « Mais levez la tête maintenant parce que votre délivrance approche et votre bonheur éternel a été préparé. » Alors, attendons le grand jour du retour par cette salutation que conclut l'Apocalypse et sur laquelle nous voulons conclure et saluer les uns les autres, nous saluer les uns les autres dans l'espérance, saluer tous ceux qui lisent la Bible, tous ceux qui écoutent le message de la Bible, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. La grâce, c'est la seule grâce qui pourra nous donner d'aller jusqu'au bout. Il y aura, et je voudrais le dire, il y aura encore un autre message. Celui-ci est le dernier, mais que j'ajouterai, que j'ai déjà donné, et qui s'intitulera, qui sera la 24e partie de l'Apocalypse que j'ai ajoutée, vous le retrouverez, et celui-ci portera le titre « La chronologie du retour de Jésus-Christ ». C'est un message que j'ai donné déjà, je ne vais pas le redonner, vous le retrouverez, mais il portait le titre à ce moment-là Dieu a tout essayé. Donc, ça portera le titre de chronologie du retour de Jésus-Christ. Et vous retrouverez toute la trame de l'Évangile. Je n'aurai pas à refaire, mais vous aurez finalement la conclusion et puis vous aurez la vision finalement de toutes les étapes, mais en un seul message. Je vous remercie pour votre attention. Ça fait presque deux ans que, voilà, j'ai vieilli de 2 ans, mais j'en sais un tout petit peu plus. Voilà, j'espère que vous en savez aussi. Mais on n'est pas fini d'apprendre, parce que je vous ai parlé d'un jaillissement à l'infini, et nous pouvons nous réjouir et bénir le Seigneur. Nous allons simplement le remercier maintenant. Et que Dieu nous bénisse, que la grâce de Jésus soit avec vous. Prions maintenant quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce qu'en effet, Seigneur, qui peut comprendre, qui peut appréhender ces choses profondes ? Parce qu'en effet, Seigneur, l'Apocalypse, c'est un regard dans le passé. C'est aussi, Seigneur, eh bien là, finalement, un flash dans notre présent. Mais Seigneur, il reste encore le reste. Il reste l'avenir. Et Seigneur, cet avenir, nous voulons l'aborder, Seigneur, avec un cœur rempli de foi et d'espérance. Et te dire encore une fois de plus que nous te faisons confiance dans la réalisation de ta parole, puisque tu nous l'as répété. Eh bien, Seigneur, ces paroles sont certaines et véritables. Oui, Seigneur, tu nous dis « Je viens bientôt ». Et nous, nous te répondons « Viens, Seigneur Jésus. Amen. » Thank you.